pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Et aujourd'hui, une émission sur la lutte du peuple Wet'suwet'en. Les Wet'suwet'en se battent depuis 10 ans contre la construction d'un gazoduc sur leur terre ancestrale non cédée au Canada. Pour s'y opposer, ce peuple avait érigé des postes de contrôle sur son territoire et sur la route du projet du gazoduc, empêchant et retardant ainsi le projet, parallèlement à une lutte juridique. Ses soutiens, par ailleurs, suite aux expulsions d'habitants et de policiers militarisés de la gendarmerie royale en 2020, ont manifesté et bloqué des chemins de fer et des routes partout dans le pays avant le confinement décrété par les autorités en réponse à l'épidémie du coronavirus. Face à cette mobilisation, les autorités canadiennes et le service de sécurité de l'entreprise, du nom de TC Energy, n'ont eu de cesse, tout du long, de répondre par une répression acharnée pour protéger l'industrie fossile et leurs intérêts. Ce fut donc 4 raids armés sur le territoire autochtone, 75 personnes arrêtées, 20 personnes poursuivies en justice, sans compter le harcèlement policier et juridique. Aujourd'hui, nous allons vous faire écouter des enregistrements choisis d'interventions et un interview réalisé en collaboration avec l'émission Zoom Écologie. Ces enregistrements ont été réalisés suite à la projection d'un film qui avait lieu le 4 décembre 2024 dernier, à La Parole Errante à Paris, dans le cadre d'une soirée de soutien à cette lutte en présence d'opposantes, qui relate la lutte de la nation autochtone Wet'suwet'en contre le pipeline Coastal GasLink sur leur terre. Était donc présente Sleido, l'une des chefs de Kazik et porte-parole du point de contrôle de Guidimten, ainsi que Freda Husson, qui est la conjointe du chef Owilkat et coordinatrice du camp Unistoten. Vous entendrez donc dans une première partie un interview qui présente la lutte et son historicité, et dans une deuxième partie, une partie des questions qui avaient été formulées suite à la projection du documentaire, de sorte à rentrer un peu plus dans les détails de cette lutte. Mais avant cela, nous vous faisons écouter un rapide montage qui permet de comprendre un peu mieux les différents enjeux et la manière dont ils se posaient à la nation Wet'suwet'en, mais aussi à l'ensemble de ses soutiens lors de la mobilisation en 2020.
Au Canada, le mois de février a été marqué par une crise politique et territoriale. Un projet de gazoduc dans l'ouest du pays a mené à un conflit entre des représentants de la nation autochtone Wet'suwet'en, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le fédéral. En solidarité avec les Wet'suwet'en, des manifestants ont paralysé le réseau ferroviaire du pays.
Ce qui a commencé comme une crise locale en Colombie-Britannique est maintenant devenu national.
C'est pas la première fois que les territoires autochtones se retrouvent au centre d'un conflit de genre-là. Il y a eu Oka en 90, Hyperwash en 95, Caledonia en 2006, entre autres. Alors, comment ça se fait qu'on se retrouve encore une fois aux prises avec un conflit territorial qui dégénère? Tout part de ce territoire de 22 000 km² qui est revendiqué par la nation Wet'suwet'en dans le nord de la Colombie-Britannique. Le gazoduc Coastal GasLink, un projet de plus de 6 milliards de dollars, doit passer au cœur de ces terres. Les 20 conseils de bande qui se trouvent sur le tracé du pipeline, dont 5 conseils de la nation Wet'suwet'en, ont signé des ententes avec Coastal GasLink. Un conseil de bande, c'est un peu l'équivalent d'un gouvernement qui serait responsable d'une réserve. Les conseils de bande sont élus par les membres de leur communauté. Ils existent depuis l'adoption de la loi sur les Indiens en 1876. Parmi leurs nombreuses responsabilités, il y a l'éducation, la santé et la prospérité économique. Les conseils de bande veulent faire profiter leurs membres d'une partie des retombées qui sont promises par Coastal GasLink. On parle ici de 2000 emplois, $1 milliard en investissement et de 21 millions en taxes foncières. On connaît les défis économiques des communautés autochtones. Dans ces circonstances-là, il y en a qui avancent que refuser un projet comme celui-là, c'est pas une option.
C'était comme s'il y avait le couteau au gorge.
Les Wet'suwet'en ont des conseils de bande, mais ils ont aussi des chefs héréditaires. C'est un modèle de gouvernance qui date d'avant la colonisation et qui a persisté dans certaines communautés du Canada, surtout dans l'Ouest. Historiquement, ils s'occupent de protéger le territoire et les traditions du peuple. Le rôle de chef héréditaire est passé de génération en génération, selon un processus qui varie d'une nation à l'autre. Les 5 chefs héréditaires Wet'suwet'en, ils veulent rien savoir d'un projet de gazoduc qui passerait sur leurs terres ancestrales et qui, selon eux, mettrait en péril la chasse et la pêche. C'est pour ces raisons-là qu'il y a 10 ans, certains membres de la nation Wet'suwet'en ont établi un camp, le camp Unistoten, notamment pour empêcher la construction du pipeline Coastal GasLink. En janvier et en février de cette année, avec en main une injonction de la Cour, la GRC a procédé à des arrestations au camp Unistoten afin de permettre la construction du gazoduc.
Ils sont allés mettre en état d'arrestation des chefs héréditaires et des maires clans dans l'Ouest canadien. C'est pas exactement une bonne stratégie, ça, là. C'est pas de la réconciliation.
Et c'est de là qu'est partie la vague de solidarité à travers le pays.
Le problème pour les chefs des conseils de bande, c'est souvent en question leur légitimité également parce que c'était imposé par la loi sur les Indiens.
Une loi dont l'objectif principal était d'assimiler les Indiens le plus rapidement possible, et là, je cite le premier ministre de l'époque, et qui a été remise en question depuis.
Si la reine d'Angleterre venait ici au Canada et nous disait « Écoute, j'ai une autorité légitime et je vais faire une loi et vous devrez obéir à cette loi », je crois que les Canadiens diraient peut-être pas.
Certaines figures autochtones importantes du pays estiment que les chefs héréditaires auraient aussi dû être consultés.
On a deux différents gouvernements, comme ici au Canada, où vous avez le gouvernement provincial, fédéral et municipal. Vous avez certains niveaux de gouvernement.
Ceux qui pensent que les chefs héréditaires auraient effectivement dû être consultés s'appuient, entre autres, sur l'arrêt d'Elgamouk, une décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1997 qui touchait, coïncidence, les Wet'suwet'en. Les chefs héréditaires tentaient de faire reconnaître leurs droits ancestraux sur leur territoire, un territoire qui n'a jamais été inclus dans un traité. C'est ce qu'on appelle communément un territoire non cédé. Il y en a encore beaucoup à travers le Canada. Pour vous faire un résumé rapide de la décision de la Cour suprême, l'arrêt d'Elgamouk a fait des chefs héréditaires des interlocuteurs valides, mais l'arrêt n'a pas non plus écrit noir sur blanc qu'ils devaient absolument être consultés pour qu'un projet comme Coastal GasLink se fasse.
Ce qui est vécu à Wet'suwet'en, c'est des choses qu'on a vécues aussi dans toutes les communautés ou presque. Rappelez-vous, ici au Québec, bien sûr, la fameuse crise d'Oka en 1990, c'est-à-dire qu'il y a un promoteur privé qui a voulu agrandir le golfe et là, il y a eu une occupation du territoire par des familles traditionnalistes Mohawk. On a fait entrer la SQ, on a fait entrer l'armée. On est dans le même trio de colonisation, donc on se reconnaît dans ça, évidemment.
Comme quoi, en 30 ans?
Sur la question territoriale, qui est vraiment le nerf de la guerre ici pour beaucoup de Premières Nations, on n'a pas fait assez de progrès, malheureusement.
Et nous vous diffusons maintenant l'interview de Slaido, qui revient sur l'histoire de la lutte du peuple Wet'suwet'en.
Donc Slaido, merci de nous recevoir pour cette interview, pour nous parler de la lutte que vous menez avec d'autres au Canada contre ce projet de pipeline et qui n'est pas sans rappeler pour nous un ensemble d'éléments qu'on a pu voir dans d'autres luttes aux États-Unis, en Amérique plus largement. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter au sein donc de la communauté Wet'suwet'en que tu représentes ici aujourd'hui et au sein de la lutte que vous menez.
So, my name is Slaido.
Mon nom, c'est Slaido. Mon nom anglais, Molly Wickham. Je suis la porte-parole du checkpoint de Gidimten, qui est une réoccupation de notre territoire traditionnel. Et on a été un lieu de résistance contre le pipeline Coastal Link. Et mon nom me vient de la maison Cassia, qui est la maison du Grizzly, du clan Gidimten, de la nation Wet'suwet'en.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce projet de pipeline et son histoire, à savoir quand est-ce qu'il a été conçu, quand est-ce qu'il a été rendu public et que vous, vous en avez entendu parler, et quand est-ce que vous êtes organisé contre ce projet?
Alors, ça fait quelques années que ce Coastal Link Pipeline il a été proposé, je crois que vers 2015-2014, et les chefs héréditaires se sont opposés à ce pipeline directement, ainsi qu'à un certain nombre d'autres projets de pipeline qui étaient sur nos territoires. Alors ce pipeline, il ferait 670 km de la dite Colombie-Britannique jusqu'à la côte pacifique. On a actuellement un des plus gros projets, un des plus gros investissements de 45 milliards de dollars de liquéfaction de gaz issu de la fracturation, donc du GNL, pour être expédié vers les marchés asiatiques. Et donc ce gaz ne resterait pas dans le soi-disant Canada, ne serait pas utilisé, mais serait expédié vers les marchés asiatiques. Et donc ce projet n'a pas reçu le consentement libre des chefs héréditaires Wet'suwet'en, alors que c'est elles qui gouvernent nos territoires.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'au sein du territoire en question, la communauté Wet'suwet'en a le pouvoir normalement de décider de l'aménagement du territoire, en fait, administre normalement ce territoire.
Exactly. So our clan governance system, our hereditary chiefs, that's the system that has been governing our territories for thousands of years. It's ancient. It's still
exactement. Notre système de gouvernement de notre clan, c'est les chefs héréditaires. Ça fait des siècles que notre système de gouvernement est celui-ci. Il est ancien, il est toujours vivant. Nous vivons toujours par nos lois. Nous avons un système de lois qui est très complexe. Nous avons notre propre constitution. Nous n'avons jamais signé de traité avec le gouvernement. Ces lois nous viennent. Nous avons la propriété pleine et la juridiction sur notre terre. Ça a même été reconnu par la Cour suprême du Canada en 1997. Et après ça, après cette décision, le gouvernement a formé des comités avec des politiciens, des élus pour élaborer une stratégie pour faire face au fait que nous avions un titre reconnu sur notre terre, puisqu'ils voulaient réprimer notre nation et notre souveraineté sur notre terre.
Mais du coup, comment ont-ils obtenu cette autorisation légale de construire le pipeline, puisque vous étiez contre, et malgré tout, ils ont eu le droit de mener ce projet?
Well, they got an injunction against us.
Ils ont eu une injonction contre nous. C'est une tactique qui est très connue, qui est utilisée par le gouvernement canadien et par les industries tout le temps, et souvent contre les populations autochtones.
And so the way that
injunction law works, la loi sur les injonctions, ça marche en ne prenant en compte que les pertes que l'industrie privée aurait si nous devions continuer à stopper le projet. Ça ne prend pas en compte tout ce qui touche à la culture, à l'attachement culturel des populations autochtones à la terre, nos moyens de vie, nos sources de nourriture, rien de tout ça. Donc les injonctions mises en place par l'industrie, elles marchent, elles gagnent toujours. Et à partir de là, ils peuvent venir faire intervenir la police pour nous expulser de nos terres et mener à bien leur projet.
Dans le film, on voit tout un moment de solidarité assez fort entre les peuples autochtones américains partout dans le Canada. Et donc comment cela s'est-il un peu déroulé? Et est-ce que ceci a concerné seulement les peuples natifs autochtones, ou est-ce que ceci a été plus largement partagé au sein de la population du Canada?
Nous avons des alliances assez fortes avec d'autres nations autochtones, notamment parce qu'il y en a d'autres qui ont fait face au gouvernement, qui ont été dans la même position que nous avant nous. Et donc on a cette solidarité et cette vision partagée de la souveraineté sur nos terres, ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'autres terres au Canada qui ne sont pas la propriété du gouvernement. Enfin, aucune des terres n'est la propriété du gouvernement canadien. Même celles où il y a eu des traités, le gouvernement n'a jamais respecté sa partie du traité, donc ils sont nuls et non avenus. Et personne n'a jamais abandonné sa terre. Et donc ces autres nations autochtones avec qui nous avions bâti des relations avant Shutdown Canada et avant les actions de solidarité, il y en a beaucoup qui ont naturellement décidé de rejoindre notre combat et de nous suivre. Ils ont vu les violences policières qui nous arrivaient et ils ont voulu se soulever et nous soutenir. Et il y a aussi eu beaucoup de groupes dans des ONG, des associations locales. On a eu aussi beaucoup de soutien des anarchistes de partout au Canada et d'autres nations autochtones. Et on a vraiment une grande variété de soutien. Il y avait vraiment tout le monde s'est mis ensemble. C'était très puissant. Ça nous a beaucoup inspiré. Tous ces gens qui voulaient résister contre les destructions de l'environnement et contre l'État.
On a l'impression ici qu'on est face un peu à un combat permanent des communautés autochtones de posséder légalement et d'administrer les territoires sur lesquels ils vivent. Et dans le film, il y a même un moment où il y a un blanc qui affirme que les terres appartiennent en fait à la reine d'Angleterre. Et donc on dirait qu'en 2024, on est quand même face à un combat qui est en fait toujours d'actualité.
Oui, un de nos grands succès a été d'avoir éduqué les gens sur la souveraineté, sur la légitimité des lois indigènes. Et donc ça a été une grande partie de notre lutte, ça a été de montrer aux autres citoyens du soi-disant Canada que nous possédons nos terres, nous avons juridiction sur cette terre et nous savons comment la gouverner d'une manière soutenable, alors que le gouvernement a prouvé qu'il ne savait pas gouverner les ressources. Ils épuisent toutes les ressources, ils ont mis au sol tellement d'économies parce qu'ils ne savent pas comment vivre de manière soutenable, alors que nous savons.
Donc,
quand les gens s'inquiètent de l'environnement, quand les gens s'inquiètent du climat, nous leur disons, notre système est fait pour ça. Notre système de gouvernement est fait pour vivre de manière soutenable. Nous avons prospéré pendant des milliers d'années et nous savons comment ne pas gâcher nos ressources. Et notre système est toujours intact. C'est pour ça aussi que autant de monde soutient la gouvernance indigène et suivent nos lois. Et d'ailleurs, nous n'imposons pas nos lois sur d'autres individus. C'est en réalité contre nos lois de nous imposer sur les autres individus et sur les autres groupes. Nous avons aussi des lois sur la propriété privée et sur la violation de propriété privée. Et donc, les gens qui s'introduisent illégalement sur notre propriété, nous avons le droit, selon notre loi, de les arrêter.
J'imagine que pour vous, ça renvoie aux différents mouvements et vagues de colonisation et donc de destruction des peuples autochtones américains et que l'histoire se répète encore. Quand on regarde le film, les images nous rappellent assez fortement celle de la lutte qui a été menée à Standing Rock, là aussi contre un projet de pipeline, cette fois-ci dans le Dakota du Nord aux États-Unis. Et on y voyait des très grandes et imposantes barricades défendues par des personnes en habits traditionnels autochtones et puis qui faisaient face à des forces de police surarmées, déterminées et principalement blanches. Et j'imagine que vous aviez ces images-là en tête.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de points communs, même si nous, on n'a pas été à la même échelle que Standing Rock. Il y a eu tellement de monde qui est allé à Standing Rock, alors que nous, on est assez isolés dans le Nord, donc on était beaucoup moins nombreux. Mais je pense que l'attention que nous avons suscitée était assez similaire. Et les gens avaient déjà vu le type de répression aux États-Unis, mais c'était la première fois qu'on voyait ça dans notre région. Cette répression qu'on a eue avec la police militaire. Et donc, je pense que c'était une des choses qui a contribué à connecter nos luttes.
Vu d'Europe, on a l'impression d'être un peu toujours en face du même schéma, avec la découverte de nouveaux gisements de pétrole ou de quelconque ressource. Il se trouve que ces ressources sont localisées dans les territoires autochtones, ou alors le pipeline doit passer par cet endroit. Et évidemment, se mène une lutte contre ce projet, et finalement, le territoire est détruit au point que les modes de vie des peuples autochtones ne peuvent plus persévérer. Et on dirait que ce n'est pas simplement une sorte de conséquence malheureuse de l'aménagement, mais vraiment fait partie de l'intention claire de détruire une fois de plus les cultures indigènes et leur territoire, ce que vous appelez dans le film, enfin dans votre langue en fait, Yinta.
Yeah, I mean it's just outright blatant racism.
Oui, c'est juste purement et simplement du racisme, c'est flagrant. Parce que s'il y avait des ressources que le gouvernement ou que l'industrie voulait, qui se situaient dans les propriétés de gens blancs respectables, ou là où eux, ils vivent, la question ne se poserait pas de détruire leur vie, détruire leur maison pour y accéder. C'est beaucoup moins commun, mais parce que les populations indigènes autochtones ont été tellement déshumanisées depuis le contact pour pouvoir accéder à nos terres, pour pouvoir justifier le génocide que nous avons subi et qui continue, ils pensent que personne ne va se soucier, que c'est pas important si nos vies, si nos moyens de subsistance sont détruits du moment qu'ils peuvent tirer profit de nos ressources. Mais c'est clair que ça ne se pose pas de la même façon pour tout le monde, qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique qui est lié à la déshumanisation de nos peuples.
On a l'impression que tout ça fait un peu partie d'un même projet qui serait à la fois extraire le pétrole et détruire les communautés autochtones au Canada dans un même mouvement d'accaparement de ces espaces et de leur administration par le Canada blanc.
Yeah, I think it's,
oui, je pense que ça fait partie du génocide de notre peuple. Il y a tellement de choses. Par exemple, si notre terre n'est pas en bonne santé, nous ne sommes pas en bonne santé. Si nos terres sont détruites, nous aussi, nous sommes détruits. Et donc, les impacts de cette connexion et de tout ça, c'est que les gens se suicident. Il y a beaucoup de problèmes sociaux qui causent beaucoup de violence et de morts prématurés des gens chez nous.
Et donc,
peut-être que le gouvernement ne nous tue pas au même rythme qu'avant, mais bon, ils le font encore. La police tue constamment des personnes autochtones en toute impunité. Ils sont toujours dans cette perspective de nous exclure de nos terres, de commettre un génocide contre nous afin d'avoir accès à toutes nos ressources.
Dans le film, il y a quelque chose qui me semble un peu paradoxal du point de vue de la France, c'est que la police, malgré l'enjeu et la résistance, ne semble pas spécialement violente dans la façon qu'ils ont de mettre fin à la lutte et aux différents blocages.
Alors la différence avec nous, c'est qu'ils ont déployé des moyens tellement disproportionnés contre un petit nombre de personnes, avec des snipers, des chiens d'attaque, des hélicoptères, des fusils d'assaut, et vraiment des centaines de policiers et vraiment pas beaucoup de nous. Et donc, je pense que c'est ce qui fait que si tu sortais du rang, même de quelques centimètres, tu risquais de te faire tirer dessus ou d'être attaqué par un chien policier. Donc on n'avait vraiment pas beaucoup d'espace pour bouger, pour pouvoir résister physiquement. Ils n'ont pas eu besoin d'utiliser tellement de violence, même s'il y a eu vraiment eu des attaques très violentes contre des personnes qu'on ne voit pas dans le film. Par exemple, une de nos jeunes a été gazée au gaz lacrymogène chez elle dans son allée et ensuite poursuivie sur la route par des agents de police. Et donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas dans le film, mais qui aussi relèvent d'une force excessive utilisée par la police. Et les gens avaient vraiment peur pour leur vie. Donc tu peux rien faire contre ça.
Oui, dans une lutte qui serait en fait absolument inégale là.
Oui, absolument. Et ça fait vraiment partie de l'injustice. Pourquoi tu vas déployer autant de force contre des gens qui ne sont pas armés et qui sont aussi peu nombreux?
Et où en êtes-vous donc de la répression contre cette lutte, contre, bah, contre toi-même et contre ceux qui y ont pris part?
Actuellement, étant donné que la construction du pipeline sur notre territoire est terminée, la police et la sécurité privée se sont retirées en majorité, mais il y a encore de la sécurité privée sur notre territoire, même si on n'a plus de détachement de police. Par contre, on est toujours lourdement surveillé. Moi-même, j'ai toujours une peine de prison qui pourrait m'arriver suite à mon arrestation d'il y a 3 ans. Et jusqu'à l'automne dernier, il y a eu beaucoup d'arrestations arbitraires qui se sont passées tous les mois. Et tous ces gens qui ont été arrêtés pendant toutes ces dernières années attendent toujours d'aller au procès. Il y a une autre descente sur notre territoire qui n'a pas vraiment été publicisée, qui ne fait pas partie du film, du documentaire, et dans laquelle il y a eu plusieurs arrestations aussi, et ça n'a pas encore été poursuivi au tribunal. Donc on doit encore faire face à beaucoup de batailles judiciaires dans le cadre de cette répression. Et les gens continuent de se faire arrêter sur la route par la police puisqu'ils ont cette tactique de demander des inspections de nos véhicules. Donc évidemment, nos véhicules ne passent pas ces inspections parce qu'ils sont un peu vieux et on est interdit de rouler, ce qui nous démobilise beaucoup puisqu'on vit dans le nord, tout est loin et on ne peut pas se déplacer comme on veut. Et je crois que c'est arrivé à au moins 12 de véhicules, des véhicules personnels et des véhicules communs.
Oui, donc c'est ça. Donc là, ça prendrait un peu la forme d'une sorte de harcèlement juridique ou judiciaire.
Oui, nous avons un procès civil contre la gendarmerie royale du Canada et la sécurité privée. Intimidation, pour harcèlement, intimidation, surveillance et collusion avec l'entreprise CTL et avec la gendarmerie royale canadienne qui travaillent tous ensemble pour s'assurer qu'on ne puisse pas accéder à nos terres pour essayer de nous faire abandonner la lutte.
Et donc toi-même, personnellement, qu'est-ce que tu risques actuellement comme du point de vue juridique et pénal?
Well, they were... previously,
eh bien, avant, the maximum sentence for, la peine maximale pour violation d'une injonction, c'était 27 jours de prison. Mais récemment, on a vu dans notre province qu'il y a eu des cas dans lesquels ils ont demandé 4 à 6 mois de prison juste pour violation d'une injonction. Donc il y a 3 personnes sur un autre conflit autour d'un pipeline qui ont eu 6 mois de prison pour juste... s'être tenu sur une route. Et dans mon cas, ils vont sûrement demander plus de temps de prison puisque ils me voient comme une des leaders. Et donc, quand tu es dans une position de meneur, souvent, on considère que tu dois passer plus de temps en prison.
Oui, parce qu'il faut rappeler que toi-même, tu n'as pas détruit de machine. Ni attaquer les employés directement de la compagnie. Vous avez juste résisté passivement et pourtant vous êtes quelques-uns à risquer des peines de prison.
Oui, le seul chef d'inculpation, c'est violation de l'injonction, c'est-à-dire que j'ai empêché Coastal GasLink de travailler ou que j'ai encouragé d'autres gens à les empêcher de travailler. Il n'y a vraiment aucune inculpation pour tout ce qui concerne des destructions de machines, rien d'autre. C'est vraiment juste d'avoir bloqué le travail.
Peut-être pour conclure d'une façon plus positive cette interview, est-ce que tu penses que la lutte que vous avez menée contre ce projet ferait réfléchir les compagnies à deux fois lorsque elles auraient à mener ce genre de projet, de la même manière, des projets d'aménagement dans des territoires autochtones? Est-ce que ça risquerait d'avoir posé un rapport de force qui devrait être pris en compte par les compagnies dans l'avenir?
Well, the company
bien, l'entreprise, après 2019, a changé de nom pour ne pas être associée avec ces premières attaques. Et ils ont juste vendu un autre projet de pipeline à la nation qui est notre voisine. Et donc, non seulement cette compagnie a peur, mais d'autres entreprises essayent de vendre leurs projets en disant aux communautés, nous ne sommes pas du tout comme le Coastal Gas Link, nous ne serons pas du tout comme eux. Évidemment, tout le monde sait que ce sera exactement pareil. Mais toutes ces entreprises ont peur d'être associées à ce projet. Et elles ont bien raison, elles devraient bien avoir peur de la résistance. Parce que nos voisins, les Gexen, ont aussi un projet de pipeline qui leur a été proposé et ils sont très, très au courant de notre lutte. Ils en ont fait partie, c'est des grands alliés. Et donc nous serons des alliés et des soutiens pour eux dans leur lutte.
Parce que c'est ça, est-ce qu'il y a actuellement des nouveaux projets dont vous avez entendu parler ?
Il y a aussi un autre projet de pipeline qui a été proposé pour notre territoire, mais qui n'a pas encore tous les investissements. Il y a aussi un autre pipeline qui était la propriété de la même entreprise, qui a été vendue et qui a commencé à être construit sur le territoire voisin des Gexen.
Et donc peut-être c'est ça, avec des nouvelles stratégies visant à inclure les communautés autochtones dans ces projets, dans leur conception et leur aménagement, et en fait à les faire participer, si j'ai bien compris.
En fait, ils ont vendu un de ces projets, TC Energy, un projet de pipeline à la nation Nesca, qui est une autre nation autochtone qui vit plus près de la côte, et pas les Gexen, qui sont nos voisins. Le pipeline va passer par leur territoire et eux, ils sont très opposés. Ils ont déjà mis en place de nombreux blocages pendant les derniers mois, les dernières années, pour empêcher ce projet. Et ils sont déjà venus à bout de ce projet une première fois, ce pipeline qui est de retour. Ils avaient réussi à s'en débarrasser une première fois il y a quelques années et là ce projet a été remis sur la table.
Eh bien, merci de nous avoir reçus dans les locaux d'Amnesty International. C'est vraiment très très gentil de votre part et c'est extrêmement intéressant. Et eh bien, on va suivre tout ceci et on vous souhaite vraiment plein de courage pour les événements à venir, que ce soit eh bien, votre combat juridique et la lutte contre d'autres projets qui pourraient avoir lieu.
With the Wet'suwet'en people, their traditional chiefs guard the territory they share. Only they can say if any pipeline may cross it, and if they say yes, only they can say where. Thank you. stand united with the Wet'suwet'en people. Their traditional chiefs guard the territory they share. Only they can say if any pipeline may cross it. And if they say yes, only they can say where.
Continue avec vous de parler de la lutte du peuple Wet'suwet'en en vous diffusant maintenant les interventions choisies et les questions posées à la suite de la projection d'un documentaire sur leur mobilisation qui avait lieu le 4 décembre dernier à La Parole Errante.
Est-ce que vous pouvez développer la situation aujourd'hui en 2024, décrire la situation et expliquer les enjeux par rapport aux autres luttes contre les pipelines et aussi décrire un petit peu quel est l'état des mobilisations actuelles au Canada autour de votre lutte. Merci.
Well, currently with the CGL pipeline, there are two compressor stations that they want to build on Wet'suwet'en territory that would double the capacity of the gas.
Actuellement, l'entreprise de CGL qui a construit le gazoduc cherche également à construire deux stations de compression sur notre territoire, près de nos villages. Donc, bien sûr, nous nous y opposons.
To protect our territory from further damage. We have a lot of support. People are continuing to all of the clans.
Nous voulons éviter que davantage de dommages soient faits à notre terre. Et nous avons énormément de soutien. Beaucoup de gens nous ont rejoints pour construire les infrastructures sur notre terre, pour réoccuper le territoire. On cherche à être plus proactif, à faire plus de blocages, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un gazoduc ou d'une industrie. On cherche à s'opposer à tout type d'exploitation de nos terres. Un autre peuple, Gitxsan, font actuellement aussi face au même type de problème que nous et y opposent résistance à la construction d'un projet.
Bonsoir. Thanks a lot for being here with us, even though you're coming through.
Merci d'être avec nous, même si vous traversez tout ce que vous nous avez présenté. Ce film est très fort. C'est très impressionnant. Et donc j'ai une question à propos des femmes, puisque on a l'impression que les femmes ont vraiment une place très importante dans le film et dans la communauté, dans toutes les manifestations et les protestations que vous avez organisées. Et donc je me demandais aussi, on voit les robes rouges en protestation contre les disparitions des femmes, et donc je me demandais un peu quelle était la place des femmes dans cette lutte. J'ai une autre question à propos des images, puisqu'on a l'impression que tout le monde filme tout le monde, qu'il y a des images de vous, et je me demandais un peu, est-ce que c'était une bataille des images, et comment ça se passe de faire ce film alors que des images de vous peuvent être utilisées aussi contre vous. Et merci encore pour le film.
The reason why you see mostly women standing up is because through our system we're matrilineal, and it's the women who have children and then their daughters that have children, they all become part of our clan. And as part of the clan, they get to use the lands that belong to our clan.
Alors, pourquoi est-ce que l'on voit surtout des femmes à l'écran? Et c'était la question pour quel est le rôle et la place des femmes au sein de la nation. Eh bien, ce sont surtout les femmes qui résistent parce que dans notre système, la lignée passe par les mères. Donc, si moi j'ai des enfants, ils vont appartenir à mon clan. Si ma fille a des enfants, ils appartiendront à notre clan. Mais si mon fils a des enfants, ils appartiendront au clan de leur mère. La descendance donc passe par la mère et on se bat pour nos héritiers, notre descendance.
And a lot, we used to have warriors a long time ago, warrior society, but because of the residential school and
Par le passé, nous étions un peuple de guerriers, mais à cause de toute la répression que notre peuple a subie, à cause des pensionnats au Canada, à cause de la rafle des années 60, à cause de l'obligation d'être éduqué dans des écoles catholiques et d'être déraciné de notre culture, nous avons beaucoup souffert. Les hommes ont beaucoup souffert et ne se sentent plus l'âme de guerrier. Et ce sont les femmes au sein de notre peuple qui guérissent tous ces traumatismes.
It's the women that start to work on themselves so that we can make ourselves strong to stand up. And the red dresses you saw represent all the women that are missing. We have a highway that we call Highway 16.
Pourquoi les robes rouges? Eh bien, les robes rouges représentent toutes les femmes qui ont disparu sur l'autoroute 16 qui traverse la Colombie-Britannique. Et de nombreuses de ces femmes étaient Wet'suwet'en. Malheureusement, lorsque une femme autochtone disparaît, le gouvernement ne s'en préoccupe pas. Et les meurtriers ne sont pas tenus pour responsables. Nous avons donc également noté les noms sur les robes rouges de ces femmes Wet'suwet'en qui étaient disparues.
A lot of the abuse and comes with the man camps that they were.
Il faut savoir que beaucoup de la violence à laquelle nous faisons face est liée à l'existence des camps de logement pour les employés de l'industrie, parce que beaucoup de drogues, d'alcool y circulent et les femmes sont alors mises en danger. C'est pour ça aussi que sur nos affiches, il y avait écrit que les man camps représentaient une menace.
When the filmmakers were filming us, we had invited different filmmakers from different organizations and just friends of friends to come and film when we're involved.
Par rapport à la question qui était du tout le monde nous filme, on filme tout le monde, eh bien au début, on avait simplement demandé à plusieurs petits réalisateurs d'organisations différentes ou des amis d'amis de venir filmer à chaque fois qu'il y avait une situation conflictuelle, par exemple lorsqu'il y avait un blocus, parce que à chaque fois qu'un blocus était démantelé, la police interdisait aux journalistes de se rendre sur place. Donc on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'avoir nos propres médias pour rendre compte de ce qu'il se passait. Au début, ça devait être un documentaire très court, juste pour faire état de ce qu'il se passait. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de beaucoup de réalisateurs pour vraiment dire notre histoire.
Moi, j'aurais aimé savoir si vous aviez eu des discussions à propos de la violence, de désir de violence entre vous et vos soutiens, peut-être même vous personnellement, voilà, parfois. Je pense que c'est parce que vous êtes resté non violent, non violente, que vous avez eu ce pouvoir. Parce que c'est très très fort, et vous utilisez la non-violence beaucoup, vous la connaissez très bien, mais peut-être que vous avez eu des discussions, et est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit peut-être que ça vaut le coup de devenir violent, de brûler quelque chose, je ne sais pas.
Personnellement, je n'utilise pas la violence parce que mes chefs héréditaires nous ont interdit de faire usage de toute forme de violence parce que l'on ne doit pas s'abaisser au niveau de nos ennemis. Et si on sème la paix, on récolte la paix, mais la violence n'appelle que la violence.
Je ne crois pas que toute réponse à la violence coloniale est violence. Je pense que la seule violence qui existe est la violence que les colonisateurs et l'État.
Je ne crois pas que la réponse que l'on peut apporter à la violence coloniale, quelle que soit, soit violente. C'est la violence coloniale qui est la vraie violence. Je ne pense pas non plus que détruire les propriétés privées soit particulièrement violent. Tout dépend de votre définition de la violence. Par contre, pour moi, détruire les animaux, les terres, les peuples vivants, ça, c'est extrêmement violent.
And I think that it's also important to know that we are up against a state and billions of dollars.
Il ne faut pas oublier que nous nous battons contre un État, contre des milliards de dollars d'industrie. Donc il faut aussi être stratégique pour pouvoir survivre et continuer le combat.
Bonsoir, merci beaucoup. C'était très 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 touchant. Et je trouve que ça fait des échos avec ce qui se passe à plein d'autres endroits. Moi, j'ai beaucoup pensé à la ZAD contre la 69. Ma question, elle était sur le centre de guérison qu'on voit plutôt au début du film. Est-ce qu'il existe encore et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je trouve ça très inspirant. Merci.
Well, we built the healing center because we were wondering why so many of our people weren't standing up beside us, and it was just our family.
Lorsque l'on a construit le centre de guérison, on s'est posé la question de savoir pourquoi les personnes autour de nous pouvaient manquer à l'appel, et on s'est rendu compte que c'est en guérissant notre peuple qu'on allait aussi guérir notre territoire.
So we decided we needed to build a healing center so we can bring our people there to bring healing to our people. And my niece got a
Ma nièce s'est formée, a eu un diplôme, elle est maintenant médecin, psychologue, et c'est elle qui dirige les programmes de guérison.
We've been running a program for the last 2-3 years called land-based healing.
Nous avons notamment un programme depuis maintenant 3 ans qui se fonde sur notre terre. Et on voit une véritable différence. On a une manière de guérir qui est holistique. On guérit l'esprit, le corps, la tête et on incorpore aussi des aspects culturels.
Bonjour, merci beaucoup pour ce témoignage. Dans ce documentaire, il a été mentionné notamment Total Energy. Donc forcément, à nous qui sommes ici français, qui habitons en France, on a une responsabilité par rapport à ça. Ma question étant, qu'est-ce qui, à vos yeux, qu'est-ce qui serait le plus utile pour vous qu'on fasse pour vous aider ? À quoi est-ce que vous nous appelez spécifiquement, nous, Français et Françaises, voilà, pour vous aider dans votre lutte ? Merci beaucoup.
My answer is always to that kind of question that it's not up to the indigenous people to help fight climate change. It is up to all of us. And
quand on me pose la question, je dis toujours que ce n'est pas au peuple autochtone seul de devoir contrer le changement climatique. C'est notre devoir à tous, où que l'on soit, où qu'on le vive, parce que on en vit toutes les conséquences et les gouvernements, les industries cherchent à détourner le regard. Mais on ne peut pas se permettre d'ignorer ce problème. On le voit au jour le jour. Certaines communautés sont complètement détruites à cause d'inondations, d'autres catastrophes naturelles, des catastrophes naturelles qui ne sont pas des accidents, mais qui sont bel et bien le résultat du changement climatique.
All of these disasters, and it's not by accident, it's because we're ignoring climate change. And every one of us is connected by water, every one of us as human being depends on the air to breathe.
Et tous et toutes sur Terre, nous respirons le même air, vivons de la même eau, de la même terre, et nous en avons besoin pour survivre. Donc, si l'on ignore la situation ne se réglera pas d'elle-même, et on le voit déjà, les prix des produits alimentaires ont augmenté parce qu'il est beaucoup plus difficile de produire et de cultiver les terres.
The result of climate change. And the more people that speak up to leadership, the more power we have.
Les conséquences sont déjà là. Et si de plus en plus de personnes s'adressent au gouvernement, aux personnes au pouvoir, alors on pourra changer les choses.
The more people that speak up,
les petits groupes seuls ne pourront pas y arriver, mais c'est tout ensemble, en protestant ensemble, que l'on pourra changer les choses, parce que les prisons ne seront pas assez grandes pour enfermer toute la population.
So for those who haven't been following along, we have yintafilm.com is a website that has all of our websites linked on there.
Il y a un site web pour le film yintafilm.com où vous trouverez tous les liens pour aider les différents les différentes nations, clans, les Gidimten, l'Unistoten,
l'Axiu,
et il y aura donc sur le site web toutes les manières de soutenir nos membres.
Currently, when I get home, where I'm going back to trial, so I'll have a full week of trial when I get home, along with Shayla and Samson.
Moi, quand je vais rentrer dans mon pays, je vais aller au tribunal, et parce que je suis poursuivie avec un autre membre Guilevstan et un autre membre Mohawk à cause de la résistance que nous avons menée en 2021.
And so, if you want to go and check out those websites, we have ways that you can support.
Et donc voilà, si vous voulez des manières concrètes de nous soutenir, vous pouvez aller voir le site web du film. Mais je dis toujours que le mieux que l'on puisse faire, c'est appuyer là où ça va leur faire le plus mal. Donc en menant des actions de solidarité. On l'a vu par le passé en réaction aux raids que nous avons subis. C'est les actions de solidarité qui nous ont permis d'être protégés. Et il va falloir forcer les autorités à obéir et vraiment les attaquer là où ce sera le plus difficile pour elles, là où ça va leur coûter de l'argent et là où on pourra interrompre le status quo. C'est là, avec les actions solidaires, que l'on pourra être victorieuse.
Those are always, I find, the most useful tactics.
Bonjour, moi je me demandais, comme on voit à la fin du film, du documentaire, que le pipeline est construit. Je me demandais, est-ce que ça a un impact sur votre vie quotidienne? Est-ce qu'il est déjà fonctionnel? Est-ce qu'il sépare votre territoire? Est-ce qu'il faut que vous le contourniez? Et comment vous faites face à ça? Est-ce que ça change vraiment la façon dont vous vivez? Moi, je voulais poser une question sur les enfants. Vous savez, est-ce qu'ils doivent encore aller à l'école coloniale? Est-ce que vous avez des écoles de votre côté? Comment vous organisez? C'est tout.
So there is a question about the children and how the children are being raised on our Yinta. So my children are all being raised according to our traditional realm.
Alors, il y avait une question sur les enfants, comment est-ce qu'ils étaient éduqués sur le Yinta. Eh bien, les miens, par exemple, sont éduqués selon nos traditions. C'est la même chose pour la maison Unistoten. Les enfants sont éduqués par leurs parents, n'ont pas besoin d'aller dans une école spécifique.
And then also to respond to the question of impact.
Par rapport à l'impact sur notre vie quotidienne de la construction du gazoduc, eh bien moi, par exemple, depuis 3 ans, je n'ai pas le droit de m'approcher du gazoduc, ce qui représente quand même la moitié du territoire.
I'm not allowed to be on the territory at all unless I'm engaged in a cultural practice.
Donc je ne peux pas me déplacer librement et je suis d'ailleurs sous interdiction de me rendre sur mes terres sauf pour y pratiquer des activités culturelles. Par ailleurs, l'eau de notre rivière sacrée a été contaminée, elle est parfois devenue imbuvable alors que c'était notre source d'eau principale.
Because this was the first year that they drilled under the river.
On ne sait pas encore quel a été l'impact sur la population de saumons dans la rivière dont nous nous nourrissons, puisque c'est la première année que la compagnie a foré sous la rivière. Et l'eau qui était autrefois claire et où l'on pouvait voir les saumons vraiment par la transparence de l'eau est maintenant extrêmement trouble. Donc il y a déjà un véritable impact sur l'environnement. Par ailleurs, on ne sait pas s'il y a un impact directement lié à l'entretien du gazoduc. Est-ce qu'il y a des fuites? Ça reste à voir.
Pour Unistaten, we still run our healing camps, but the thing that we've noted.
Le camp de guérison, le centre de guérison Unistaten fonctionne toujours, mais ce que l'on a remarqué depuis 3 ans, c'est que les zones que l'on utilisait pour chasser ont été affectées. On trouve beaucoup moins d'orignaux qu'auparavant, donc je suppose que l'industrie les a fait partir.
The roads we used to access, like a lot of our berry patches, got wiped right out, so. We have to look elsewhere to harvest berries.
Les routes que nous utilisions pour aller cueillir des baies, elles aussi ont été détruites.
They put the right of way right beside it and deliberately pushed trees down into a cabin, and so there's no.
Les plantes médicinales que nous récoltons, qui ont besoin d'ombre pour pousser, ne peuvent plus le faire parce que de nombreux arbres ont été coupés par l'industrie.
We collected medicines for our use, so there has been a lot of impact, and I know.
Je sais également que l'industrie a vidé un lac, tuant ainsi plus de 400 saumons.
So they did a lot of violations, I think, probably $100 million in fines, that company, and
et l'industrie, bien sûr, paye des amendes pour ces actes, mais continue d'agir comme si de rien n'était.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour toutes vos questions, remarques, interventions. Merci encore, Sledo Molly-Wickham, Frédéric Zone. Je pense qu'on peut encore les applaudir.
Yeah, so we're going to share the water song with you, which you may have heard in the film. This song comes from Lutuspin, our territory, and it reminds us of the sacred responsibility that we have as women to protect the water. It's the lifeblood of our territory.
And la musique qui honore l'eau, qui nous rappelle aussi notre responsabilité en tant que femmes de préserver l'eau qui est la force vitale de notre territoire comme le sang qui coule dans nos veines.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron.
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine.
Au début, il n'y avait rien. Quand, soudain...
Radio Prévenitive.
Run and fuck the slow-mo.
Not a girl!